et à tous, bienvenue dans La Chose Commune, tous les mardis à 9h sur Studio Zef, sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme. Je suis ravie de vous retrouver cette année encore avec Thomas pour vous parler des choses qui bougent en Loire-et-Cher, des initiatives locales, des projets citoyens, des collectifs engagés vers l'écologie et la protection de l'environnement. L'émission a repris il y a quelques semaines, avec notamment l'événement phare du mois de septembre, la fête de la science, mais pendant l'été, beaucoup d'événements ont eu lieu, et notamment des événements culturels comme Appel d'air, qui prennent le temps, dans leur programmation, de parler écologie. Appel d'air, festival agriculturel, s'installe tous les deux ans dans cette installation agricole modèle qu'est la ferme du Gorja à Azé. Et que se passe-t-il donc les années sans appel d'air? Eh bien, c'est la piqûre de rappel qui prend le relais, interfestival à plus petite échelle et qui débutait cette année avec une table ronde en collaboration avec la Confédération Paysanne pour échanger sur les problématiques d'eau et d'alimentation. La Chose Commune de cette semaine vous propose donc à l'écoute la rediffusion des échanges de ce forum intitulé « La qualité de l'eau dans notre alimentation ». Bonne écoute!
Allez, on attend les derniers retardataires et puis on va attaquer. De toute façon, les gens vont arriver aussi. On peut prendre la conférence en cours, il n'y a pas de problème. Donc la conférence, ça va se passer de manière assez simple. On va laisser, donc on a Claude Paysan, jeune retraité, là, qui a une expérience de fou sur les questions de l'eau, donc qui va présenter des éléments un peu d'actualité autour de la réglementation de l'eau. Thibaut qui va se présenter aussi, qui se spécialise sur les questions de l'eau aussi aujourd'hui dans son parcours professionnel. Et Anne qui arrive de Poitiers, Nancy et voilà, oui c'est ça, ok. Qui parlera donc plus sur les spécificités un peu géologie. Et si vous avez envie qu'on parle de méga bassines, on pourra parler de méga bassines. C'est quand même le sujet, un des sujets clés. Donc merci à tout le monde d'être présent. Donc, je le rappelle, c'est une conférence là, qu'on a organisée en partenariat entre Appel d'air et la Confédération Paysanne. On organise donc la piqûre de rappel tous les deux ans. Et cette année, voilà, on a voulu fusionner un peu avec la conf pour organiser ce temps de conférence qui nous paraît toujours intéressant dans notre programmation. On aime bien faire la fête, mais on aime bien aussi parler des sujets un peu d'actu agricole. Et au niveau de la conf, l'eau, c'est vraiment la question centrale un peu des luttes qu'on mène depuis deux ans. On a organisé pas mal de manifs parce que on aime bien les manifs. Et on aime bien quand même essayer de faire comprendre qu'il faut changer notre modèle agricole. Et donc là, aujourd'hui, on a trois intervenants pour parler de ces questions-là et puis de répondre aussi aux questions. Donc, il y aura un temps de présentation où chacun va prendre la parole. Et puis, s'il y a des questions derrière, on fera circuler aussi le micro. Claude, tu attaques ?
Oui, pour me présenter, donc Claude Golando, je suis agriculteur jeune retraité, comme l'a dit Adrien, donc depuis six mois, je suis à la retraite. Et j'ai été agriculteur dans la vallée de la Cisse, donc... J'ai vécu toute ma vie auprès d'un ruisseau, la Cisse, et qui a beaucoup évolué dans le temps. Et c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. J'ai vu l'évolution. Et donc, j'étais engagé aussi dans les organisations professionnelles agricoles, notamment les organisations de l'agriculture biologique. Et à un moment donné, s'est ouvert un poste au niveau du comité de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour les organisations bio. Et donc, mes collègues m'ont proposé de participer au comité de bassin de l'Agence de l'eau. Donc voilà, là c'est très formateur, on voit beaucoup de choses et j'ai essayé de vous transmettre quelques éléments. C'est compliqué, c'est un sujet compliqué.
Ok, moi c'est Thibaut Toussaint. Donc je suis ingénieur généraliste à la base. J'ai travaillé 12 ans dans les énergies renouvelables. J'ai fait 6 ans dans l'éolien dans le nord de la France et après 6 ans en Savoie en hydroélectricité. Et en fait c'est au contact de la rivière et des différents enjeux que j'ai pu rencontrer sur le fonctionnement de la rivière elle-même, avec tout ce qui est incision du lit, érosion agressive, enfin, tous des éléments environnementaux, circulation de la biodiversité, etc., que j'ai commencé à creuser un peu ces questions. Et du coup, après, j'ai switché, j'ai arrêté ce travail. J'ai fait une année de formation en agroécologie et agroforesterie. Et aujourd'hui, j'ai un bureau d'études qui travaille sur en fait, la permanence de l'eau dans les paysages. Essayer de faire en sorte que l'eau ait la place nécessaire pour que le cycle de l'eau soit en bonne santé. Et donc, j'accompagne agriculteurs et collectivités à repenser la place de l'eau pour limiter tout ce qui va être ruissellement, pollution en bas de parcelle, etc. Et également, du coup, favoriser tout ce qui va être infiltration dans les sols et bonne santé des rivières.
Bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Maureen Pastier. À la base, je suis chercheuse indépendante en sciences de la terre. Voilà, il y a quelques années, j'ai décidé de me séparer du monde universitaire voilà, qui se veut neutre, mais qui ne l'est pas du tout, et de créer une association qui fasse de la recherche pour les luttes environnementales, donc de la recherche en sciences de la terre. Et parallèlement avec ça, mais aussi mon côté citoyenne, je suis investie dans Bassine Non Merci 86, dont je suis une des porte-parole.
Ah ouais, je crois que je vais intervenir en plusieurs fois. Et notamment, je voulais faire une première présentation, une entrée en matière concernant les politiques et la gestion de l'eau et le cadrage législatif. Alors, l'eau est gérée selon une directive européenne qui a été transformée en 2006 en LEMA, c'est-à-dire loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, c'est la transcription française d'une directive européenne. Tous les pays d'Europe sont tenus de garder une qualité d'eau. Et donc la France a fait de cette manière une loi. Et cette loi est donc transmise aux agences de l'eau, les différentes agences de bassin. Donc il y en a 6 en France. Ici, on est en Loire-Bretagne. Et ces agences de l'eau, par un comité de bassin, par une sorte de parlement de l'eau, d'assemblée, a vocation à mettre en œuvre cette loi et donc de l'adapter sur le territoire. Donc pendant qu'on parle de l'Agence de l'eau, l'Agence de l'eau, c'est un organisme qui rassemble différents partenaires, dont l'État, les élus, et puis les usagers, ce qu'on appelle les usagers, donc les différents partenaires autour de l'eau, l'industrie, l'agriculture, le tourisme. Bon, voilà. L'Agence de l'eau, c'est une grosse tirelire, en fait, qui rassemble à peu près 2,5 milliards d'euros sur 5 ans et qui restitue cet argent dans des actions qui ont vocation à améliorer la qualité de l'eau. Et donc, l'Agence de l'eau est financée par, sur vos factures d'eau, vous avez tous une petite ligne dans laquelle vous voyez apparaître un montant qui correspond à votre cotisation pour l'Agence de l'eau, qui est prélevée par votre syndicat d'eau ou par le prestataire. Voilà. Donc, on est tous partenaires de l'eau et on est légitime pour demander à ce que cet argent soit bien utilisé. Donc, les agences de bassin mettent en œuvre, donnent les grandes directions. Et ensuite, c'est l'État qui met en œuvre, qui applique sur le terrain les dispositions de cette législation. Et donc là, au niveau de l'État, il y a deux grands organismes. Les DDT, donc la partie agricole et territoire, qui va mettre en œuvre les mesures quantitatives, donc tout ce qui est volume d'eau, utilisation de l'eau. Et puis d'autre part, l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est aussi un organisme d'État, qui va mettre en œuvre les aspects sanitaires. Quand on voit les analyses d'eau, ça, c'est vérifié par l'ARS, qui a cette vocation de mesurer. Alors, juste deux petits mots. La loi prévoit, pour mémoire, les priorités suivantes. La loi prévoit que la première priorité, c'est l'eau potable. Donc, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de la conférence. Donc, l'eau potable est vraiment la première priorité sur laquelle tout le monde doit se mettre en œuvre. La deuxième priorité est donc la préservation des milieux naturels, des zones humides, conserver une biodiversité autour de l'eau. Et puis, la troisième priorité, c'est gestion des volumes pour l'agriculture, pour l'industrie, pour les autres partenaires de l'eau, donc les gens qui utilisent l'eau, à titre économique. Donc voilà, il y a les trois priorités suivantes qui sont les objectifs à atteindre. Pour revenir sur la qualité de l'eau, donc la qualité de l'eau potable est donc contrôlée localement par l'ARS, et l'ARS est en lien avec les organismes gestionnaires de l'eau, donc selon les collectivités territoriales, les mairies, soit la gestion de l'eau est dédiée avec un partenaire privé, alors, pour ne pas les citer, Veolia, Lyonnaise des Eaux. Soit l'eau est gérée en syndicat d'eau avec une gestion communale. Donc il y a ces deux possibilités. Et donc dans tous les cas, c'est l'ARS qui pilote et qui chapeaute les analyses. Donc les enjeux de la qualité au niveau du Loir-et-Cher. Pour le Loir-et-Cher, les principaux enjeux au niveau de la qualité de l'eau, ce sont d'abord les pesticides et les nitrates. Donc sur les nappes, notamment la nappe de Beauce, hein, où il y a des gros problèmes de pesticides et de nitrates qui sont constamment en hausse et qu'on n'arrive pas à endiguer. Et puis après, il y a les problèmes qui viennent derrière. Donc éventuellement la bactério, la fameuse bactérie Escherichia coli qu'on peut trouver dans certaines conditions, lors de crues, lors de l'eau comme ça, qui peut apporter des bactéries dans les eaux potables. Et puis, les nouveautés, c'est donc les PFAS, les substances médicamenteuses qu'on peut retrouver à travers les stations d'épuration qui sont alimentées par notre chasse d'eau. Et donc, les substances médicamenteuses arrivent dans les eaux de rivière. Et puis, des molécules, les microplastiques, tout ce qui tourne autour des plastiques. Donc, les canalisations qui ne sont pas avec des bons matériaux. Et aussi les microplastiques dont on entend parler, qui sont présentes partout. Je ne sais pas si, Adrien, monsieur, voudrait prendre la parole. Est-ce qu'on commence ?
À toi ? Oui, en fait, je voulais juste apporter un complément sur cette organisation puis sur l'état de l'eau aujourd'hui. En fait, il y a un rapport 2023 qui est sorti entre différentes inspections générales des ministères, un rapport interministériel qui fait un état des lieux de la filière traitement eau potable et de voir un peu où en est la situation.
Il y a des mouchoirs après pour les gens qui commenceront à pleurer. Il y aura des mouchoirs mis à disposition.
Après, on parlera des choses un peu plus positives. Ouais, donc en fait, je reprends ce rapport parce que c'est un rapport du coup qui fait un peu date sur l'état des lieux de la situation. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, jusqu'en 2020, les systèmes de filtration et de potabilisation étaient assez efficaces avec toutes les molécules qui étaient retrouvées dans l'eau. Et depuis 2020, il y a une arrivée de plusieurs molécules qui sont plus dont les systèmes de filtration en fait sont plus en capacité de traiter. Ces molécules, elles sont de plusieurs ordres. Donc, il y a ces PFAS dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres métabolites des pesticides. C'est-à-dire que les pesticides, ils se dégradent en différentes molécules. Et certaines de ces molécules qui sont issues en fait, de la molécule initiale, pour certaines, il n'y a pas d'enjeu, elles ne sont pas nocives. Et pour d'autres, elles ont aussi une toxicité. Et en fait, c'est certains de ces métabolites-là qui ont été dégradés dans le temps, qui ne sont plus filtrés par les systèmes en place. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, il y a Eau de Vienne qui a fait une étude pour essayer de mettre en œuvre son plan de filtration en adéquation avec les polluants retrouvés. Et donc, ils arrivent avec une mise en œuvre sur 10 ans pour réussir à potabiliser la totalité des systèmes en place et un tarif actuel qui devra augmenter de plus de 74% par rapport à cette nécessité d'investir sur la gestion de ces nouveaux polluants. Et pour un peu avancer sur la notion d'organisation et de potabilisation, du coup, le rapport, il conclut en expliquant qu'en fait, les dispositions de protection des captages et des aires d'alimentation de ces captages aujourd'hui, il est complexe et peu efficace et il est à revoir. C'est la conclusion de la commission du sujet. Il conclut aussi sur la préservation de la qualité des ressources en eau est en échec pour ce qui concerne les pesticides. Voilà. Alors après, évidemment, il y a pas mal de propositions pour renforcer en fait, la législation en place, notamment sur tout ce qui est déclaration d'utilité publique, où ils préconisent en fait, d'aller... les DDT, en fait, elles ont la possibilité, sur des déclarations publiques, de dire bah, « ici, à cet endroit, c'est ça qui se passe et pas autre chose ». Et là, l'idée, c'est de dire bah, « il faudrait renforcer ce type de procédure pour pouvoir imposer en fait, l'affectation du sol et dire bah, « à cet endroit-là, on ne peut pas faire autre chose que du bio ou de la prairie permanente, ou ce genre de sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui vient d'être fait, qui était que bah, cette politique de gestion de qualité de l'eau n'était pas efficiente.
Voilà, ça c'était donc pour les bonnes nouvelles. Si on continue, on peut faire un point sur le Loir-et-Cher. L'idée, c'est aussi de l'adresser un peu à la situation actuelle, et après de développer sur concrètement le cycle de l'eau, à quoi il ressemble aujourd'hui et sur quoi on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan agricole et vers quel modèle il faudrait qu'on tende à aller quoi. L'idée c'est bien sûr d'essayer de faire évoluer le modèle agricole actuel quoi.
Ouais, donc je peux vous faire un petit point sur l'état de les différentes ressources en eau dans le département du Loir-et-Cher. On parle de l'eau d'une manière générale, mais en fait chaque territoire est alimenté par une ressource différente d'un endroit à l'autre. Donc, dans le Loir-et-Cher, on a principalement deux nappes profondes. Donc, l'une d'entre elles, c'est le Cénomanien, qui se trouve au nord du département. Où il y a c'est une très grosse nappe qui a des affleurements, y compris jusque dans la vallée du Cher, mais qui est principalement présente sur le Perche et après une partie de l'Indre-et-Loire. C'est des eaux très, 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 très pures, de très bonne qualité. Il y a quelques prélèvements, c'est-à-dire soit des syndicats d'eau, soit des agriculteurs qui prélèvent dans la nappe. Mais aujourd'hui, on ne donne plus d'autorisation de prélever dans cette nappe parce qu'on veut garder cette nappe comme une nappe pour l'avenir où on va avoir de l'eau de très bonne qualité. Donc le Cénomanien est une nappe protégée. Et bon, il y a quelques utilisations, mais pour l'instant, ça concerne assez peu l'agriculture. Elle est profonde et il faut beaucoup de temps pour l'infiltration. Donc l'eau arrive très propre dans la nappe et donc on a une nappe de bonne qualité. Ensuite, on a la nappe de Beauce. Donc la nappe de Beauce, c'est pareil, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais ça couvre une partie du nord du département avec l'Eure-et-Loire, une partie du Loiret. Et c'est une très grosse nappe. Bon, un petit aparté, quand on parle de nappe, en fait, il s'agit d'infractuosités dans la roche qui font que globalement, ça stocke de l'eau. Il ne s'agit pas d'une grosse poche avec de l'eau dedans. Voilà, bon, pour info, on empire ça. Donc la nappe de Beauce, actuellement, le niveau est très haut. On a eu un niveau très bas avec 2023 où on a eu été sec, hiver sec et à nouveau un autre été sec. Là, on était très, très bas. Et là, avec les pluies qu'on a eues, l'eau est remontée. Donc, on a un niveau qui est actuellement très haut. La qualité est globalement médiocre parce qu'elle filtre les territoires de Beauce, elle filtre les terres cultivables de la Beauce intensive. Donc, le pompage est comment dire, restreint dans le sens où il est maintenant encadré. Les agriculteurs, par exemple, ont droit, on en parlera tout à l'heure, je crois, ont droit à un certain quota, à des quotas dans lesquels ils peuvent prélever une certaine quantité d'eau. Et selon l'alimentation de la nappe, le quota peut être réduit ou rester dans l'état. Voilà pour la nappe de Beauce. Donc là, c'est le moment de rappeler les actions de la CONF. Hein, la CONF est intervenue à plusieurs reprises sur cette nappe de Beauce. Eh bien, à Averdon-Villerbon, qui est concerné avec des problèmes de nitrates et pesticides. Depuis, on sait l'histoire depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on m'a invité à des réunions avec des agriculteurs pour parler d'agriculture biologique. J'étais très malvenu, hein. J'étais pas bien accueilli, mais ça avançait pas. Et donc, on a fait traîner. Et aujourd'hui, on arrive à des niveaux de nitrates et de pesticides qui sont au-delà des normes. Et donc, il faut faire quelque chose. Et là, ce qui a été décidé sur Averdon et Villerbon, c'est d'une part une unité de dépollution. Ça coûte très cher. Et deuxième point, l'interconnexion, donc ça veut dire connecter le réseau avec des réseaux d'eau plus propres, de manière à faire en moyenne une eau de qualité acceptable. Alors on en parlera tout à l'heure, pour nous c'est pas une solution, il faut traiter le problème à l'origine, il ne s'agit pas de traiter les conséquences et on est dans la mauvaise solution. Alors dans certaines villes, dans certains villages, c'est les nitrates principalement qui arrivent en dépassement, ouais. Et puis alors les pesticides, voilà, on a des niveaux d'alerte ou de restriction par molécule, mais on a parlé à l'instant des métabolites, c'est-à-dire les molécules qui changent de forme, et puis le cocktail, c'est-à-dire quand il y a plusieurs, on est dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas d'interdiction particulière, on laisse aller parce qu'on ne sait pas ou on ne veut pas savoir. En tout cas, quand il y a plusieurs molécules ensemble, ben, on peut penser qu'il y a des interactions qui aggravent les phénomènes, quoi. Donc on n'est pas dans le dépassement, mais on est dans le cocktail. Et après, je voulais faire un petit zoom sur le sud de la Loire. D'abord, la Loire. Donc la Loire, aujourd'hui, le niveau d'eau, le débit de l'eau de la Loire est géré par les deux barrages de Naussac et Villeray, dans la Lozère, en amont. Et donc on largue de l'eau suffisamment pour que la Loire soit à 50 mètres cubes seconde. Et à 50 mètres cubes seconde, ça permet de refroidir les centrales nucléaires. Donc voilà, l'eau qu'on voit dans la Loire, c'est ce qu'il faut pour refroidir les centrales. Et après, donc, il y a des usages locaux. Elle est également alimentée par des rivières, le Loiret, la Cisse, les rivières locales qui vont dans la Loire. La Vienne, le Cosson, le Beuvron, tout ça alimente, quoi. Mais globalement, elle est alimentée, elle est soutenue et elle est régulée par les barrages de Naussac et Villeray. On a une utilisation de l'eau, la qualité de l'eau est quand même importante parce que la ville de Blois, par exemple, a un pompage, une station dans laquelle elle pompe pour la Loire, sur la Loire et qu'elle, après, purifie pour le rendre potable. Là, je vous parlais des différents affluents qui amènent l'eau dans la Loire. Ces affluents-là sont souvent très chargés en pesticides et nitrates. Et donc, il se produit un phénomène, là, c'est qu'on réduit le niveau de l'eau de la Loire au minimum et on apporte de l'eau chargée de pesticides et de nitrates, ce qui fait qu'avec un petit volume d'eau, on arrive à augmenter le volume de polluants de manière un peu grave, quoi, hein. Et donc, la Loire est aujourd'hui devenue... Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le peu d'eau, ça fait qu'on a un réchauffement de la température. Donc, au niveau de la biodiversité des poissons, il y a beaucoup d'alevins qui ne survivent pas à des températures de l'eau de la Loire quand il fait des canicules. Donc il y a des endroits où il y a très peu d'eau et la biodiversité va changer complètement. Et puis après, la qualité de l'eau, donc la présence de ces nitrates qui arrivent par les affluents, ça génère des algues. Et donc il y a des périodes où il y a des explosions d'algues. Et donc ces algues-là sont en grande partie dues aux nitrates qui arrivent de la plaine de Beauce par les affluents de la Loire. On peut penser, enfin a priori, les eaux qui viennent de Naussac et Villeray viennent du Massif central, ces eaux-là sont de bonne qualité. Par contre, ce qui se rajoute, eh ben, ça fait globalement un mélange qui n'est pas très bon, quoi. Ensuite, le Cher. Alors, le Cher a aujourd'hui un niveau très bas. C'est une rivière qui est alimentée par des nappes de surface, donc il pleut. L'eau va dans les nappes, elle alimente la rivière. Et quand il ne pleut pas beaucoup, ou là, les étés qu'on a maintenant, font que le Cher a régulièrement des périodes d'assec. Et là, la préfecture a déclenché ce qu'ils appellent le niveau d'alerte renforcé. Donc, ça veut dire que là, on commence à restreindre sérieusement les usages de l'eau, notamment pour l'agriculture, pour ménager le débit du Cher et éviter que ça monte effectivement de la même manière en température et qu'il y ait quand même assez suffisamment d'eau pour la biodiversité du Cher. On n'y arrive pas vraiment. Hein. Dans les années très sèches, là, il y a eu de la casse au niveau des poissons, au niveau de la biodiversité. Il y a un problème d'oxygène aussi. Voilà. Quand la température monte, l'oxygène de l'eau baisse et les poissons ne peuvent plus respirer. L'agriculture, là, sur le Cher, le problème actuel, c'est que les agriculteurs ont cultivé beaucoup du maïs. Maintenant, ils cultivent aussi du soja. Et le soja a besoin d'irrigation tardive. Et donc, à cette période, pour finir le cycle, et donc l'irrigation tardive du soja demande de l'eau à un moment donné où la rivière est relativement en difficulté. Donc, voilà, est-ce qu'il faut autoriser quand même le pompage ou est-ce que le soja est adapté? Ou plutôt, est-ce que les eaux qu'on a pompées en juin et juillet étaient absolument indispensables? Et là, c'est des questions de choix. Donc, il faut faire des choix d'irrigation, soit de printemps, soit d'été. Mais on ne pourra pas continuer à tout faire et après mettre devant le fait qu'on manque d'eau pour les cultures, quoi.
C'est technique, hein, attention, hein. Là, c'est un spécialiste qui parle. Donc là, ça nous fait la transition peut-être après vers Thibaut sur les manières, enfin le fonctionnement du cycle naturel de l'eau, voir comment, sans parler de stockage ou de gestion de l'eau, comment le cycle de l'eau, on peut arriver, mine de rien, à agir un peu dessus et à le rendre plus efficient, plus efficace sur les parcelles. Et puis on ira après avec Anne sur les sujets... les fausses solutions qui sont proposées aujourd'hui avec le stockage et l'exemple des méga-bassines, où on verra que c'est vraiment pas une solution. Enfin, c'est clairement démontré. Donc, on va parler de l'aspect vraiment naturel et du travail que fait Thibaut sur des fermes. Et puis après, Anne prendra la suite.
Oui, alors du coup, moi, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit schéma, mais je ne sais pas si vous voyez tous bien d'ici. En fait, moi, ce que je propose, c'est vraiment de travailler sur la présence de l'eau dans le paysage avec les agriculteurs. Et donc, on repart vraiment du cycle de l'eau naturel et on essaie de voir quelles composantes peuvent s'exprimer avec des beaux bénéfices environnementaux et aussi pour les cultures. Du coup, je voulais juste vous redessiner le cycle de l'eau un peu classique quand même pour commencer.
Le faire sous forme d'interro, on peut voir si les gens sont calés sur le cycle.
Bah, oui, en fait, on peut faire comme ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent démarrer sur le cycle si on part de la mer? Donc ça s'évapore, ensuite ça crée des nuages, ça c'est classique. On a des grands courants d'air qui nous emmènent jusque sur les terres. Et puis souvent, on dessine, il y a la montagne, et du coup, il y a les premières précipitations, ça tombe au sol. Au sol, on a toute une partie qui va ruisseler et on a aussi une partie qui va s'infiltrer dans les sols. Et puis, on a aussi du coup, le fonctionnement de la végétation. Du coup, on a les arbres et toutes les plantes de manière générale. Et elles, qu'est-ce qu'elles font? Ouais, elles évaporent beaucoup, en fait. Quasiment 95% de l'eau passe à travers la plante. Elle en garde un petit peu pour sa constitution. Mais la plupart, c'est de l'évaporation. Et en fait, cette eau qui passe à travers les plantes, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. Et souvent, quand on rappelle le cycle de l'eau, on a tendance à oublier ce côté eau verte. Et l'eau verte, elle est fondamentale, puisque aujourd'hui, l'eau verte, ça représente en zone continentale presque 80% des pluies qui tombent. C'est-à-dire ce qu'on appelle le recyclage. C'est-à-dire que l'eau, quand elle ruisselle, elle s'évapore, ça renouvelle la création de nuages avec les courants qui emmène vers les zones plus continentales. Cette eau, en fait, qui provient qui est dans les nuages et qui tombe sur les zones plus continentales, elle a d'abord été évapotranspirée, on appelle évapotranspiration, par les plantes. Et en France, c'est pas beaucoup du contenu des pluies, c'est environ 20%. En revanche, quand les nuages se forment, il y a une certaine quantité d'eau par mètre cube d'air qui est présente, et il faut atteindre un certain seuil. Alors, généralement, par exemple, on peut mettre maximum 15 grammes d'eau par mètre cube d'air avant qu'elle se transforme en pluie, avant qu'on atteigne le seuil de saturation et que ça finisse par redevenir de l'eau. Et ben, si on n'a pas le complément par les plantes, on n'a pas assez d'eau dans l'atmosphère pour générer les pluies. Donc il faut quand même, à un moment donné, qu'on ait de la végétation qui transpire pour qu'on puisse réussir à atteindre des seuils de saturation de l'air et déclencher les pluies. Donc même si la plupart du volume provient de la mer en France, puisqu'on est sous influence océanique, il y a une partie des pluies qui ne peut être générée que s'il y a eu d'abord transpiration par les plantes. Et ça, voilà, ça, c'est un élément important à avoir en tête dans le cycle de l'eau, parce que planter des arbres, en fait, c'est aussi cultiver la pluie, quoi.
Ah, c'est beau ça comme formule, ça j'aime bien, là, on va la retenir celle-là. Planter des arbres, c'est cultiver la pluie, ah, c'est top.
Donc après, en fait, les éléments sur lesquels l'agriculture peut influer sur ce cycle de l'eau, bah, ils sont à plusieurs endroits. Donc on a du coup cet aspect de transpiration. Donc la transpiration, elle va être liée au fait que le territoire transpire. Et là, on peut par exemple penser à ces moissons au mois de juin dans des plaines céréalières, où finalement toute la végétation qui a été semée atteint son cycle final qui est sèche, et il n'y a pas d'autre végétation alentour qui prend le relais de la photosynthèse. Et donc, à un moment donné, le territoire entier sur toute la plaine céréalière cesse de transpirer. Et donc là, par exemple, on n'a plus cet approvisionnement en eau. Et il faut savoir aussi que ce phénomène de transpiration, c'est aussi un phénomène refroidissant. Donc on a aussi une composante de rafraîchissement qui entre en jeu quand les plantes transpirent. Donc c'est aussi des zones où typiquement on peut créer des îlots de chaleur. Donc ça, c'est un des éléments sur lequel l'agriculture peut influer. L'autre élément, évidemment, c'est sur les ruissellements. Les ruissellements et l'infiltration, le ratio entre ce qui ruisselle. Donc le ruissellement, c'est un écoulement. Et quand on parle de le ruissellement de surface, l'écoulement de surface, donc l'eau, en fait, au lieu d'aller rentrer dans le sol, elle va ruisseler, donc elle va aller atteindre en fait, le prochain cours d'eau, le prochain fossé, le prochain tuyau, et elle va retourner à la mer. Là, sur l'infiltration, il y a énormément, et les ruissellements, il y a énormément d'enjeux, puisque là, on pense à tout ce qui va être coulé de boue, mais aussi tout ce qui va être perte en sol pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une perte de fertilité. Les premiers éléments qui sont arrachés à la parcelle, ça va être tout ce qui va être les fines et tout ce qui va être en fait, le plus nutritif pour les plantes. Et c'est ce qui va être évacué en premier. Si vous êtes un agriculteur qui fait des passages en produits phytosanitaires ou quoi, en fait, c'est aussi les premières substances qui vont partir avec les pluies, parce que le sol ne va pas être en capacité d'infiltrer l'eau. Donc la structure du sol et le sol vivant, c'est vraiment un élément fondamental dans la capacité à infiltrer l'eau et à recharger les nappes. Voilà, ça, c'est vraiment les éléments les principaux sur lesquels on peut jouer. Après, il y a d'autres éléments, comme par exemple la bonne santé des rivières. Donc là, on va être plutôt sur les bassins versants, avec l'idée que peut-être des fois la fréquentation animale dans les fermes d'élevage viennent polluer en fait directement les cours d'eau. Donc on peut faire des pratiques de ce qu'on appelle de mise en défense, c'est-à-dire qu'on va reculer l'accès, on va empêcher l'accès des animaux à la rivière et permettre à la végétation de bien se développer autour de la rivière, ce qu'on appelle les ripisylves. Et là, en fait, après, on va atteindre du coup un bon état écologique de la rivière avec des plantes qui vont bien filtrer l'eau de la rivière, oxygéner, et donc permettre un bon état des cours d'eau. Donc ça, c'est des accompagnements que je fais. Alors moi, je suis basé en Savoie. Du coup, je travaille plutôt sur la Drôme et dans l'Hérault. Et on a mis en place comme ça des accompagnements avec des agriculteurs où on a vraiment repensé la place de l'eau. Je vous donne un exemple d'une parcelle sur laquelle on a travaillé pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Donc là, le contexte, c'est un polyculture élevage sur une parcelle dédiée aux céréales, où en fait, après les pluies de 2024, il avait une ravine de 1,10 m de profondeur dans son champ, après deux semaines de pluie intense. Et du coup, en fait, là, la question de savoir s'il y avait des choses à faire ne se posait pas, puisque c'était soit il faisait quelque chose, il perdait un peu d'espace pour mettre en place ces outils paysagers, soit en fait il pouvait plus cultiver sa parcelle puisque du coup la terre était partie quoi. Et donc lui par exemple, il est allé assez loin dans la démarche. Et je vous fais un petit dessin là comme ça, ça vous donnera une idée. Il a une parcelle qui est ça c'est le haut de la parcelle, ça va en bas et c'est en pente raide du haut vers le bas. Ici c'est la ligne de crête du bassin versant et le cours d'eau, le premier cours d'eau démarre juste ici. Et donc, on est vraiment sur le cours d'eau de tête de bassin versant. On appelle ça vraiment le tout début de la rivière, avant que ça devienne une rivière, le tout petit ru qui va se transformer en rivière. Et lui, donc, bah, son ruisseau, il passe en dessous. Ici, il y a une route avec un pont. Et en fait, au bout des pluies de 2 semaines en 2024, la moitié de son terrain était sur la route et dans la rivière. Donc, ce qu'il a mis en place, et bah, d'abord, on a commencé par regarder les courbes de niveau, pour voir comment elles étaient distribuées. Et les courbes de niveau, ça nous indique aussi la façon dont l'eau s'écoule dans le paysage. Et quand on regarde attentivement la façon dont l'eau s'écoule, on voyait qu'ici, on était sur une petite zone plus surélevée, et ici un peu plus basse. Ça veut dire que déjà, naturellement, l'eau elle a tendance à assécher cette zone-là, puisqu'elle ne va pas rester, on est sur un petit bombement, et elle va aller plutôt à l'endroit ici où c'est creux. Donc déjà, quand on regarde les courbes de niveau, on regarde où est-ce que c'est creux, où est-ce que c'est arrondi, et ça nous dit où est-ce que l'eau va stagner, où est-ce qu'elle va partir. Et donc à partir de là, on s'est dit, bah déjà, on va changer le sens de culture. Lui faisait de haut en bas, le dévers lui permettait quand même d'envisager de faire dans l'autre sens. Donc on a commencé par se dire, ok, on va cultiver dans le sens des lignes de niveau. Donc on va se mettre perpendiculaire au trajet de l'eau. Donc lui, il est en labour, il est pas, il laboure ses parcelles. Et donc du coup, on s'est dit déjà, on va y aller comme ça. Mais on va se mettre un tout petit peu en décalage parce que ça va faire en sorte que ce point qui est ici, il va être un petit peu surélevé par rapport à celui-là. Et on va un tout petit peu croiser les lignes de niveau. Et donc on croise un tout petit peu les lignes de niveau, ce qui fait que du coup, l'eau qui normalement s'accumule ici va se répartir naturellement dans les sillons de culture sur les zones les plus sèches. Donc déjà, il homogénéise, il répartit toute l'eau sur sa parcelle. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, ici, il avait une arrivée d'eau du voisin qu'il ne pouvait pas maîtriser. Du coup, on a fait une mare tampon. Donc on a creusé un bassin. Enfin, on va le creuser parce qu'on fait les travaux dans un mois. On s'est dit, là, on mettra une mare tampon. Et comme ça, on aura au moins un petit stockage tampon le temps que les pluies passent. Et ça va s'infiltrer. L'objectif, c'est d'infiltrer au maximum. Et puis, en prolongement de cette mare tampon, s'il y a trop d'eau, on va descendre le long d'un fossé qu'on va créer en bordure de parcelle, dans lequel on va mettre des redans. Des fossés à redans, c'est des petits fossés dans lesquels, tous les 40 cm de dénivelé, vous mettez un tas de pierres. Et l'eau, en fait, au lieu de dévaler la pente et de tout arracher, elle est freinée à chaque fois qu'elle rencontre l'obstacle. Et à chaque fois, après la pluie, on a un petit peu d'eau qui stagne. Et toute cette petite eau qui n'aura pas dévalé la pente, c'est de l'eau, autant d'eau qui va s'infiltrer dans la parcelle. Et puis ensuite, pour éviter que la parcelle soit trop grande et qu'on ait une prise de vitesse de l'eau qui soit trop importante, plus l'eau prend de la vitesse, plus elle arrache le sol, on s'est dit, bah là, talus et double haie posée dessus. Et le talus, on l'a mis sur courbe de niveau avec ce qu'on appelle une petite noue, c'est-à-dire que d'abord on creuse et ensuite on fait le talus. Et l'eau qui arrive en dénivelé, bah, elle vient s'accumuler dans le fossé, mais elle ne s'évacue pas parce que ce n'est pas un fossé évacuateur, c'est un fossé d'infiltration. Donc l'eau stagne et finit par s'infiltrer. Et ici, hop, agroforesterie, une haie anti-érosion qui vont être alimentées par l'humidité qui va être en surplus à cet endroit-là parce qu'à chaque pluie, il y aura de l'eau qui va venir s'infiltrer de façon plus conséquente que sur le reste de la parcelle. Donc les arbres vont bien s'installer à cet endroit-là. Et donc là, le fossé, est quand même, comme on est sur une pente un peu raide, pour éviter qu'il y ait un trop-plein d'infiltration et potentiellement risquer un glissement de terrain, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis quand même une très légère pente à ce fossé. Et en sortie, ici, il a une forêt dont il maîtrise, il a le foncier puisque c'est à lui. Et du coup, on va faire des lits de cailloux, parce que les cailloux, ce n'est pas ce qui manque sur sa parcelle. Et en fait, ces lits de cailloux, ils vont servir à répandre le trop-plein d'eau sur vraiment toute l'étendue de la forêt pour éviter qu'il y ait trop de vitesse, toujours encore trop de vitesse et trop de ruissellement. Et donc, ça vient diffuser comme ça l'eau sur toute la parcelle. Et donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'on va mettre en place sur sa parcelle. Donc, c'est une parcelle de 7 hectares qui va venir en fait contrer son problème d'érosion qu'il avait en cas de pluie. En tout cas, on l'espère. Et ça, c'est un projet qui est du coup financé, enfin c'est un projet qui est inclus dans un projet plus large d'une communauté de communes de Drôme-Ardèche, la Porte Drôme-Ardèche, la communauté de communes Porte Drôme-Ardèche, qui a lancé comme ça des espaces tests chez 18 agriculteurs motivés pour tester ce type d'infrastructure paysagère qu'on appelle hydrologie régénérative et qui permet en fait d'aller vraiment limiter la force de l'érosion érosive de l'eau, de faciliter l'infiltration, vraiment maximiser l'infiltration et de faire en sorte que chaque goutte qui tombe soit bénéfique au sol là où elle tombe et pas qu'elle parte ailleurs, que l'eau ne prenne pas de vitesse érosive. Et là, en fait, on est en gagnant-gagnant puisqu'on a du coup toute une parcelle qui va bénéficier de la totalité de l'eau qui va tomber. Et en plus, on a ici la collectivité qui réduit la pollution au niveau du ruisseau en tête de bassin versant. Il faut voir que le ruisseau qui est ici, c'est le tout début de la rivière. Lui, il était à peine 50 mètres de vie. Il était déjà pollué par tout ce qui arrivait de la parcelle. Et on a aussi du coup ces enjeux de route et d'entretien des routes au moment de l'automne où il n'y a plus besoin d'aller chasser la terre qui s'accumule. Et lui-même, des fois, venait avec sa remorque et charriait la terre qui était arrivée en bas pour la remonter en haute parcelle. Non, c'est des solutions qui peuvent diffuser dans beaucoup d'endroits. Il y a une structure qui s'appelle l'AREAS en Normandie, qui travaille beaucoup sur les plaines limoneuses, qui a une bibliographie entièrement disponible sur son site internet, et qui travaille sur d'autres dispositifs pour des choses moins pentues. Donc pour des parcelles moins pentues, on peut envisager les bandes enherbées, les talwegs, les petits creux en herbe qui vont retenir en fait les limons et les fascines aussi. Les fascines, c'est des petites haies de bois mort qu'on peut disposer le long d'un linéaire qui vont retenir aussi les ruissellements. Et puis les deux éléments, on va dire les deux outils principaux qui permettent de répondre à énormément d'enjeux, c'est le sol, un sol vivant, faire en sorte que son sol soit le plus vivant possible. Et ça veut dire beaucoup en termes de changement de pratique. Et un élément qui est peut-être moins difficile à atteindre, c'est la plantation de haies. Parce que ça, les haies, ça a un effet bénéfique immédiat pour la culture en tant que brise-vent et du coup, limitation de l'assèchement des cultures. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les plantes, elles évapotranspirent et elles évapotranspirent d'autant plus qu'il y a du vent. Donc, si vous mettez des haies brise-vent de façon régulière sur les parcelles, déjà, vous limitez l'évapotranspiration de la plante. Une haie, ça couvre à peu près 10 fois sa hauteur en protection de vent. Quand vous avez une haie de 10 mètres de haut, vous êtes presque sur 100 mètres. Vous avez une réduction de la vitesse du vent et du coup de la transpiration des plantes et du besoin en eau.
Ça, on reparlera du modèle agricole actuel. Hein, c'est vrai, hein, là, il y avait une intervention sur le dimensionnement des fermes. Hein, c'est une des problématiques du moment. Là, on vient de démontrer qu'en gros, il fallait prendre conscience que les cycles de l'eau, c'était sur un temps long, qu'on ne va pas... on ne va pas trouver des solutions sur des infrastructures. Ce qu'on a pu entendre là, quand il y a eu les fortes précipitations l'année dernière, c'était qu'il faut curer les fossés, accélérer le cycle de l'eau, il faut évacuer l'eau, ça pose des problèmes de stocker de l'eau. On voit bien que ce n'est pas une solution, c'est la fuite en avant. Hein, les solutions, c'est ce qu'a évoqué Thibault là, hein, ça passe par de la plantation, une prise en conscience de l'environnement dans lequel on vit. Mais on est bien vigilant à dire que les paysans actuels, ils sont aussi, c'est les premières victimes de tout ça. Hein. C'est des gens qui sont pris dans un système souvent qui croule sous de l'investissement, qui sont dans une logique d'agrandissement perpétuel. C'est aller droit dans le mur, quoi. Nous, c'est ce qu'on essaie de défendre et on a des solutions. Hein. Il faut réinstaller du monde, il faut des campagnes vivantes, il faut un maximum d'agriculteurs, il faut des gens sur le terrain pour entretenir des haies, pour planter des arbres, etc. C'est pas les machines qui roulent la solution, quoi. Et les lycées agricoles en font partie, mais c'est tout à fait ça, quoi. Oui, là, le drame de l'arrachage des haies, c'est un vrai constat qu'on fait aujourd'hui. Hein. Alors on pourra reparler des haies, mais je voulais peut-être laisser la parole quand même Anne avant de passer aux questions. Donc n'hésitez pas à bien retenir vos questions et après je passerai avec le micro pour qu'on les enregistre bien.
Justement, moi, je vais vous parler déjà d'une fausse solution qui a été pour essayer de remédier aux effets du remembrement qui n'était pas que l'arrachage des haies, qui était aussi de rectifier les cours d'eau au sens de les rendre droits et donc de les curer et dans le but d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Et du coup, dans la continuité de ce remembrement, comme on a accéléré le cycle de l'eau, dans l'été, on n'a plus d'eau. Et du coup, c'est là qu'est venue la merveilleuse idée des bassines. Donc, pour les personnes qui ne sauraient pas encore vraiment ce que c'est, on ne sait jamais, c'est des très gros réservoirs, des très gros cratères qui sont creusés. Donc, on est sur plusieurs hectares. On peut aller de 1, 2 hectares jusqu'à, je ne sais plus, celle dans le 63, c'est plus d'une vingtaine d'hectares en Puy-de-Dôme. Voilà, qu'on va remplir par pompage. Ce n'est pas comme une retenue collinaire où on ne dévie pas du ruissellement. Elles sont remplies par pompage en général dans les nappes, mais parfois dans les cours d'eau. Et pendant l'hiver, parce que l'idée, c'est en hiver, il y a plein d'eau, elle est excédentaire, donc stockons-la et puis comme ça, évacuons le reste, quoi. Et les premières, elles sont arrivées en France hexagonale en fin 90, début 2000. Et aujourd'hui, on a donc en Vendée et en Charente. Et aujourd'hui, on a du recul sur ces bassines. Donc, on nous dit, dans les arrêtés préfectoraux, on voit, considérant que les... Bon, ils disent pas bassines, mais que les bassines améliorent l'état des cours d'eau, deux points. Donc, en fait, quand on regarde... moi, c'est le travail que j'ai fait avec une analyse des données hydrologiques qui sont publiques, de regarder en Vendée et en Charente, est-ce que vraiment ça a amélioré les cours d'eau, comme l'Agence de l'eau le dit. Alors déjà, ce qui est assez cocasse, c'est qu'on n'a pas mis de débitmètre ou d'échelle dans les cours d'eau avant la construction des bassines. Donc on n'a pas de données. Personne ne peut vous dire oui, ça améliore ou pas les cours d'eau. Ce que je peux vous dire, c'est que ces cours d'eau, donc il y a une petite rivière qui s'appelle l'Authise en Vendée, qui a sur son bassin versant la plus grosse concentration de bassines probablement au monde, en tout cas en France. L'Authise est encore à sec, en moyenne 3 mois par an depuis la construction des bassines, au minimum puisque les données s'arrêtent courant novembre et que des fois, en novembre, l'Authise ne s'est toujours pas remise à couler. Et ces bassines, elles ont des conditions de remplissage. Alors, ils n'ont pas le droit de remplir n'importe quand, ils remplissent en hiver. Et puis, avec des niveaux de nappe qui doivent être respectés. Le truc, c'est que quand on regarde les niveaux de nappe par rapport à l'écoulement dans la rivière, en fait, au niveau où ils ont le droit de remplir, la rivière peut encore être à sec. Donc, ils peuvent remplir les bassines de Vendée quand l'Authise est encore à sec. Vous avez peut-être entendu parler de la bassine de Mosée sur le Mignon. Et ben, elle a le droit d'être remplie quand le Mignon est encore à sec. Donc, ça ne sauve pas les cours d'eau. En Charente, on a les mêmes résultats. L'Aume Couture a toujours des problèmes d'assec. Sur les nappes, on voit une amélioration du niveau minimum des nappes. Alors, il faut savoir que ces bassines, elles viennent parce qu'il y a vraiment eu un énorme abus d'irrigation vers le marais Poitevin. Dans la fin des années 90, les nappes sont tellement descendues. Puis, il y a une petite problématique là-bas, c'est que c'est littoral, vraiment. Donc, si on fait trop descendre la nappe, on a la mer qui rentre. Et c'est ce qui s'est passé. La nappe descendait jusqu'à moins 2 mètres, par exemple, sans problème. Donc la mer rentrait et là, ils se sont mis à arroser avec de l'eau saumâtre. Donc là, évidemment, panique pour tout le monde puisque les cultures ont grillé. Et on a vu arriver les premiers seuils de gestion de l'eau. Donc quand la nappe arrive à un tel niveau, on a l'alerte renforcée, la crise, etc. Ces niveaux, ils étaient tellement bas que le problème perdurait. En Vendée, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit on va remonter ce niveau où on coupe l'irrigation. Par contre, on va vous faire des bassines. Et quand on regarde dans les données, en fait, oui, on voit le niveau minimum s'améliorer, mais de toute façon, on a ce seuil de coupure qui fait qu'on ne peut pas descendre sous ce nouveau niveau minimum. Donc, c'était dur de savoir, est-ce que c'est une meilleure gestion de l'eau ou les bassines qui ont amélioré la chose. Et on a un endroit où on a 1,5 million de volume d'eau qui est arrivé en bassine et où on n'a rien qui a changé dans le niveau des rivières, dans le niveau des nappes. Donc on peut vraiment dire que, en fait, peut-être la seule chose à laquelle ça sert, c'est ce que les gros irrigants acceptent d'avoir une modification de la gestion de l'eau. Donc ça ne marche pas pour les cours d'eau, ça ne marche pas pour les nappes. On a toujours des gros problèmes d'assec dans le marais Poitevin. Et en plus, comme on a des conditions très, très laxistes de remplissage, quand on a des années sèches comme l'hiver 2016-2017 ou 2022-2023, on a le niveau de la nappe localement qui s'effondre. Et en fait, on avait... ces bassines, elles sont arrivées parce qu'ils pompaient tellement en été que les rivières changeaient de sens d'écoulement. On a l'Authis qui vient dans la Sèvre-Niortaise. Et bien, en fait, l'Authis coulait directement dans la nappe et la Sèvre-Niortaise qui remontait dans l'Authis pour couler dans la nappe, pour être prélevée, pour arroser le maïs. Bon, ben maintenant, ces cours d'eau qui coulent à l'envers, ça arrive les années sèches, en hiver, quand ils ouvrent les bassines. Donc, en fait, ils ont juste déplacé le problème à la saison hivernale. Évidemment, on en parle rarement dans notre lutte, mais on a un gros problème d'artificialisation des sols. C'est quand même 200 hectares où on a de la bâche plastique et où on a creusé dans la nappe, où on privatise littéralement la nappe et où cette eau devrait venir irriguer des cultures, soit recharger la nappe. Voilà, donc ça, c'est pour les impacts hydrologiques. Évidemment, on a les impacts aussi politiques. On devait avoir un changement de modèle agricole, on ne l'a pas eu. On a toujours les mêmes consommations de pesticides, on a toujours les mêmes cultures. On a eu un tout petit peu de diminution des volumes pour l'irrigation, mais vraiment très très peu, et juste au début. Et on n'a plus de changement dans la gestion de l'eau depuis. On a beau avoir toujours des rivières à sec, on n'a rien qu'à évoluer depuis 2006 dans ce bassin versant. Et enfin, donc, ce que ça, au niveau politique, ça, c'est les problèmes actuels, mais surtout, ça empêche de se projeter dans le réchauffement climatique. Alors là, s'il y a des âmes sensibles, peut-être aller aux toilettes, ou je ne sais pas. On entend souvent dire, le réchauffement climatique, moi, on me le dit souvent, en tout cas, c'est pas sûr ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Après tout, on n'en sait rien. On a des modèles climatiques. Il faut savoir qu'ils sont, c'est vrai, ils sont imparfaits. Il n'y en a aucun qui marche vraiment bien, donc on les fait tous marcher ensemble, on en a plusieurs, et puis on regarde si on a des tendances qui sortent. Alors, manque de bol, la France, on est beaucoup sous l'influence de la Méditerranée, les modèles climatiques ne marchent pas bien autour de la Méditerranée. Donc on va avoir plus d'eau au nord de l'Europe, visiblement, moins d'eau au sud de l'Europe. Nous, on est au milieu. Où est-ce que la ligne de pivot va s'arrêter vraiment ? Personne n'en sait rien. Ce qu'on voit à peu près à notre latitude, quand même globalement, c'est une augmentation de la température. Depuis le milieu des années 80, on voit une vraie augmentation de la température. On ne voit pas de changement en moyenne des précipitations. Par contre, ce qu'on voit, c'est des précipitations qui sont plus tardives chez nous. Donc quand on parle d'irrigation du soja avec un besoin d'irrigation tardive, nous, la recharge elle est passée, des nappes, elle commence normalement en septembre-octobre. Maintenant, elle arrive en novembre, décembre, voire janvier. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir des précipitations beaucoup plus aléatoires. Les 15 grammes d'eau dans l'air, si on augmente d'un degré, on peut mettre 7% d'eau en plus dans l'air. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand on atteint 100% d'humidité et qu'il va pleuvoir, il y aura plus d'eau dans l'air. Donc on aura des précipitations plus intenses. Ça veut dire aussi que pour atteindre les 100%, il va falloir plus d'air. Plus d'eau. Donc l'air va être plus demandeur en eau. Donc on va avoir plus de sécheresse. Vraiment la grosse tendance, c'est des périodes de grosses pluies, des périodes de sécheresse. Peut-être ça vous rappelle les quelques années qu'on vient de passer, avec une sécheresse pluriannuelle 2021-2023. 2023-2024, énormément de pluies. Et cette année complètement incroyable, je ne sais pas comment c'était ici, mais nous on a vraiment eu des records de pluies, les nappes à des niveaux records. Avril, mai, juin, il ne pleut pas. Les nappes, elles s'effondrent à cause du curage des cours d'eau et tout ça. Donc on est passé de records historiquement hauts à une situation de crise en 3 mois parce qu'il n'a pas plu. Donc ça nous prouve à quel point nos terrains, nos bassins versants sont vraiment très peu résilients face aux risques climatiques. D'où le genre de solution qui nous faut, c'est vraiment des solutions pérennes qui remettent de l'humidité un petit peu partout et pas juste... un gros stockage à un endroit. Voilà, et donc sinon, pour finir sur une note positive, c'est que des solutions, on en a justement. Donc on a proposé en Vendée, on a proposé un autre mode de gestion de l'eau, parce qu'on a un marais, je ne vais pas vous faire le détail du marais Poitevin, c'est un peu compliqué, mais en gros, on leur a proposé une solution où demain, on peut l'appliquer demain, ça ne coûte rien. Techniquement, c'est déjà en place. Juste, il va falloir passer 2000 hectares de céréales en prairie et en maraîchage, enfin, et ou en maraîchage, quoi. Et là, on a un blocage, alors que on leur a prouvé que ça permettait de stocker des millions de mètres cubes dans la nappe, accessible à toutes les personnes qui ont déjà un forage. Et c'est vraiment un blocage idéologique, quoi.
Tout à fait. Bah, ça fait bien le lien avec la thématique d'aujourd'hui, qui est de faire le lien entre l'eau et l'alimentation. Donc l'eau, c'est notre première source d'alimentation. Hein. Si on n'a pas d'eau, on ne vit pas très longtemps. Ça montre bien qu'il faut prendre cette question très au sérieux et que le modèle agricole, il a un impact direct sur cette ressource en eau et que ça en sera sûrement une des solutions ou ce ne sera pas, quoi. Donc aujourd'hui, on est vraiment à cette... dans cette situation-là, le changement climatique, comme tu l'as dit, je pense qu'on le vit hein, réellement. Et ce qu'il faut maintenant, c'est d'une part au niveau de la société qu'on prenne conscience de l'importance que ça a et qu'il faut qu'on aille faire bouger un peu nos politiques. Hein. C'est ce qu'on essaie, nous, en expliquant qu'il faut réinstaller du monde sur les campagnes, que c'est comme ça qu'on se réappropriera le territoire et que ce n'est pas en artificialisation, en développant des grandes structures, des fermes énormes, très mécanisées, qui profitent bien au système agro-industriel, mais sûrement pas à la société et au territoire. Donc on a un rôle à jouer là-dedans. Merci à toutes et à tous.
J'ai juste oui des petites infos de ressources, si vous voulez creuser un peu des sujets. Du coup, là, je rebondis sur la notion du sol. Du coup, il y a l'AREA, c'est une association normande qui a fait énormément d'expérimentation sur les ruissellements et notamment sur des sols limoneux. Et du coup, ils ont toute leur bibliographie de recherche qui est disponible en ligne. Et donc, ça, voilà, s'il y en a qui veulent creuser ce sujet. Après, sur l'agroforesterie, il y a le réseau E, anciennement AFAC Agroforesterie, qui a aussi un site internet très bien fourni en documents sur la gestion des haies, sur les valorisations possibles, sur le cycle de vie du végétal, etc. Il y a aussi sur la notion de changement climatique, il y a une chaire qui s'appelle Eau, Agriculture, Climat, qui met aussi en ligne toutes ces conférences des différents éléments de recherche et d'intervenants qui travaillent sur ce lien. Voilà, après sur les gens qui aiment bien les chiffres et avoir des données chiffrées, il y a un livre de l'auteur Charlène Descollonges qui s'appelle Au Fake or Not. Et là, c'est sympa parce que vous avez 150 chiffres à la page. Donc, ceux qui aiment bien les chiffres pour dire il y a tant de pourcents, ceci, tant. Peut-être que dedans, il y a tous les chiffres. Et après, je voulais parler peut-être. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative. Et on a des rencontres régionales cet automne. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer des dynamiques locales. Alors moi, je suis en Rhône-Amont, je suis dans la Savoie. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partager un lien sur l'eau et sur la bonne santé de l'eau dans les paysages, la bonne santé des rivières, etc. Il y a plein de dynamiques assez positives. Et c'est une association qui est nationale, qui est particulièrement dynamique dans le Nord, parce qu'il y a un agriculteur qui s'est emparé du sujet, qui a réussi à motiver beaucoup de voisins pour lancer des sujets à grande échelle. Et c'est une association aussi qui fait des suivis sur qui instrumente les différentes parcelles sur lesquelles on a travaillé, notamment celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui va mesurer un peu l'effet des bénéfices qu'on espère avoir à travers, enfin dans le temps. Et voilà, et en fait, il y a un forum, internet où on peut accéder sans forcément être adhérent au départ, et qui permet du coup d'être en contact avec plein de gens qui créent des dynamiques locales. Et voilà, c'est assez intéressant.
Merci. Donc, pour conclure là, on a un petit stand aussi de la com. Bah, déjà, merci à nos intervenants. On peut les applaudir hein, quand même. Hein. C'était pointu. Hein. C'était pointu. Ils sont calés. Ils sont calés. On a un stand de la conf juste derrière. Vous pouvez dépenser de l'argent ici pour soutenir le mouvement. Vous pouvez adhérer. Il y a tout un tas de choses à disposition. Il y a de la doc, il y a des t-shirts, il y a des drapeaux. Et donc on se retrouve après autour d'un verre. On peut continuer les discussions. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Et à tout de suite.